Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Le projet de loi climat et résilience est voté ce mardi 4 mai à l'Assemblée. Marie-Lou, lycéenne, investie dans les luttes écologiques, est notre invitée.
Direction le SDIS de l'Ain pour mieux comprendre le dispositif Bon Samaritain et la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire.
Retour sur la manifestation du 1er mai. Vous entendrez aussi le lieutenant-colonel Cellier au SDIS de l'Ain sur les pompiers mobilisés pour vacciner.
On parlera des mesures sanitaires dans la région pour les lycées et de la nouvelle cabine de téléconsultation. Et c'est tout de suite dans Bourque en bref.
Bourque en bref.
Ce lundi 3 mai marque la fin des 10 km.
Pour la fin du couvre-feu, ce sera le 30 juin. Il passera à 21h le 19 mai, en même temps que la réouverture des lieux de culture et des terrasses.
Et c'est aujourd'hui donc le retour des élèves dans leur collège et en demi-classe, dans les lycées.
Dès le premier cas de Covid détecté, la classe concernée fermera pendant 7 jours. Face à ces fermetures, le SNES-FSU, premier syndicat enseignant, dénonce le manque de personnel. Pascal Baudet, représentant du syndicat FSU de l'Ain.
Le problème des remplacements tout court se pose puisque maintenant on est censé renvoyer les élèves lorsqu'il n'y a pas d'enseignant remplaçant qui peut venir dans une école. Sur la dernière période, mars-avril dans l'Ain, on a quand même eu 1500 journées non remplacées sur une période de 7 semaines. Donc là, les 5000 recrutements de personnel supplémentaire, on n'en a pas vu la couleur lundi dernier. Hein. Pour l'instant, dans l'Ain, c'est zéro. Voilà, donc là aussi, il y a une question de service public, tout simplement, hein, parce que si on veut se donner les moyens de fonctionner, il faut aussi recruter des personnels. Voilà.
Côté prévention, le gouvernement prévoit des autotests antigéniques avec prélèvement nasal pour les personnels. Ils doivent arriver dès ce lundi. En complément, des tests salivaires seront aussi distribués pour se dépister au moins 2 fois par semaine. Tout ce dispositif est gratuit. Les autotests seront aussi proposés aux lycéens sous le contrôle d'un adulte. Ils sont seulement réservés aux plus de 15 ans.
La région annonce des mesures pour les lycées.
Les purificateurs d'air installés dès la fin 2020 vont se généraliser dans les établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont efficaces à 99,8% contre le Covid-19. Des capteurs de CO2 seront expérimentés dans 80 classes, sans système pour renouveler l'air. Pour rappel, plus il y a de CO2 dans l'air et plus les virus circulent. Parmi les autres mesures, 2 nouveaux masques en tissu distribués aux lycéens ou encore des ordinateurs portables pour les élèves.
Les pompiers formés pour vacciner contre le Covid.
Depuis mi-mars, un décret autorise les sapeurs-pompiers à injecter des doses de vaccins anti-Covid. Une annonce qui avait reçu des critiques de syndicats de pompiers. Dans l'Ain, pas spécialement de réticence, 100 de pompiers vont pouvoir vacciner. Le lieutenant-colonel Cellier, au SDIS de l'Ain, nous explique.
Pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop utilisé, mais c'est aussi quelque chose qui est fait pour pouvoir venir en aide du personnel soignant et prendre la relève au cas où. Et puis bien entendu aussi préparer une montée en puissance de la vaccination, puisque aussi jusqu'à maintenant le facteur limitant a été le nombre de doses.
Et est-ce que les pompiers ont bien reçu cette formation pour vacciner ?
Dans le département, on n'a pas d'opposition vis-à-vis de cette possibilité qui nous est offerte. Que ce soit de notre service de santé ou que ce soit des sapeurs-pompiers. Alors bien entendu, ça fonctionne sur la base du volontariat. Il faut que les sapeurs-pompiers soient d'accord pour pouvoir vacciner. On ne force personne à le faire. Et puis aussi, ce que l'on a fait, c'est qu'on a cherché dans nos rangs des sapeurs-pompiers qui étaient soit infirmiers, soit élèves infirmiers, pour renforcer notre contingent de sapeurs-pompiers vaccinateurs.
Et on retrouve le lieutenant-colonel Cellier en deuxième partie d'émission pour nous parler de la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires par le SDIS de l'Ain, avec notamment une application mobile et l'intelligence artificielle.
Une quatrième cabine de téléconsultation dans l'Ain.
Après Montréal-Lacluse, Belley et Bourg-en-Bresse, c'est au tour de Saint-Julien-sur-Ressouze. Une nouvelle cabine pour consulter un médecin à distance ouvre ses portes sur rendez-vous ce lundi 3 mai. Une téléconsultation entièrement prise en charge par l'assurance maladie. C'est la deuxième cabine qui ouvre dans la CA3B. Celle de Bourg-en-Bresse a accueilli une cinquantaine de rendez-vous depuis son ouverture début mars. Pour la visiter, écoutez le « À vous les Burgiens » du 15 mars, dédié à cette solution. Pour faire face au manque de généralistes dans le département, c'est sur radio-b.fr, rubrique info et à vous les Burgiens.
Retour sur la manif du 1er mai.
Ils étaient environ 300 devant la préfecture de l'Ain samedi 1er mai. Une fête aux multiples revendications pour les travailleurs. Nous étions sur place.
Franck Stempfler, je suis secrétaire général de l'Union départementale FO. Les revendications, elles sont nombreuses, vraiment multiples, dans l'enseignement, dans les entreprises, avec des hausses de salaire. C'est pas le tout d'avoir été en première ligne, en deuxième ligne, mais maintenant il faut quand même que ça se concrétise sur les salaires. Il y a une problématique sur l'opportunisme de certains employeurs, je dis bien de certains, qui profitent de la crise pour licencier, hein, pour faire des plans qui étaient prévus, mais là ça passe sous Covid, on va dire. Donc il y a vraiment une multiplicité de dossiers. Et c'est pas le Covid qui va nous faire arrêter les revendications. Chez nous, depuis le début, depuis mars 2020, les revendications ne sont pas confinées.
Un an après, la pandémie est toujours là, encore plus virulente et tout aussi meurtrière, mais nous avons vécu et compris bon nombre de choses. La situation de l'hôpital public, tout d'abord, car après 20 ans de baisse de moyens et de réformes stupides, les faits nous démontrent cruellement que l'hôpital n'a plus les moyens de soigner la population.
Odile.
Donc Odile, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui?
Parce que c'est un rendez-vous le 1er mai, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, du coup.
Est-ce que vous avez des revendications particulières aujourd'hui?
Moi, j'en ai plein. Moi, il y a la défense du service public, évidemment. Et puis la réforme de l'assurance chômage. Les chômeurs sont déjà dans une grande précarité. On va précariser les personnes qui vont être en situation de perte d'emploi ou qui le sont déjà. Et puis voilà, il y en a plein d'autres.
Moi, c'est Romane.
Donc Romane, pourquoi tu es venue aujourd'hui?
Déjà, c'est le 1er mai. Donc souvent, sur les 1er mai, j'ai manifesté. J'ai un peu pour tout, pour tout ce qui se passe en ce moment, pour les jeunes, pour l'avenir, pour la planète. Voilà.
Et le cortège animé par des collectifs culturels s'est rendu ensuite jusqu'à la tannerie pour terminer la manifestation.
Une marche pour le climat le 9 mai à Bourg-en-Bresse.
C'est ce dimanche à 14h sur le parking de la tannerie. Elle est organisée par la Maison de l'écologie et de la décroissance et Youth for Climate Bourg-en-Bresse. Cette marche dénonce le manque d'ambition de la politique écologique d'Emmanuel Macron avec la loi climat. On vous l'explique juste après et nous recevons en studio Marie-Lou, une jeune qui s'est investie dans les luttes écologiques.
Deux minutes, une actu.
Inès, on revient plus précisément sur cette loi climat.
La loi climat, ou plus précisément le projet de loi climat et résilience, est voté le 4 mai à l'Assemblée. Le texte avait été présenté le 10 février par Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Ce projet de loi s'articule autour de six thématiques. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Les propositions ont été débattues en juin 2020 pendant la Convention citoyenne pour le climat. Elle a rassemblé 150 citoyens tirés au sort. Une partie des propositions a été retenue pour apparaître dans le projet de loi. Parmi les mesures, l'interdiction des publicités pour les énergies fossiles, l'interdiction des vols quand il y a une alternative en train pour les trajets de moins de 2h30 ou encore la création d'un délit d'écocide. Elles ont toutes un même objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Les membres de la Convention citoyenne jugent ce projet de loi insuffisant pour atteindre cet objectif et un constat partagé par les militants écologistes et même le Conseil d'État et le Haut Conseil pour le climat sont critiques.
L'invité de Radio B.
Le 9 mai, une marche pour le climat est organisée dans plus de 70 villes en France. Une manifestation pour montrer le désaccord par rapport au projet de loi climat qui va être voté cette semaine à l'Assemblée. À Bourg-en-Bresse aussi, un rassemblement est organisé dès 14h devant la tannerie. Marie-Lou fait partie des organisateurs. Elle est venue dans notre studio. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Tu es lycéenne à Bourg-en-Bresse et tu fais partie de Youth for Climate, un mouvement mondial de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale. Et il a été créé début 2019 suite aux appels à la grève scolaire de Greta Thunberg, une jeune militante suédoise. Alors Marie-Lou, raconte-nous un peu plus en détail ton parcours et ton engagement progressif dans la lutte contre le réchauffement climatique.
J'ai commencé forcément par avoir une éducation de mes parents qui m'ont un peu sensibilisée à l'écologie. Et puis j'ai voulu plus qu'une éducation, je me suis dit je vais m'inclure dans des mouvements réels pour le climat, pour avoir ma part d'impact. Donc j'ai commencé à chercher et puis à ce moment-là, il y a Greta Thunberg qui est apparue et ça a été un peu une révélation pour moi. Et donc du coup, il y a plein de mouvements qui sont venus en France, comme ça, qui sont apparus. Il y en a un à Bourg qui s'est formé, Young for Climate, et du coup, je me suis mis dedans. Et après, j'ai rejoint d'autres assos, type ANV COP 21, Greenpeace. Donc là, l'antenne de Greenpeace est à Lyon, mais c'est où je serai l'année prochaine, donc je vais pouvoir m'y investir à fond. Et puis après, voilà... je suis rentrée aussi au CA du MRJC de l'Ain et du coup j'ai créé une commission écologie pour apporter dans les mouvements où j'étais l'éducation à l'environnement. Voilà, c'est à peu près ça mon parcours.
À quel moment tu t'es vraiment investie dans le militantisme ?
Je pense que quand je suis entrée au lycée et avec l'apparition de Greta Thunberg, tout ça, ça m'a vraiment fait un peu un coup de poing dans la gueule où je me suis dit moi aussi je veux avoir un impact, moi aussi je veux faire des choses concrètes et pas juste parler à mes parents et dire j'ai arrêté de manger de la viande, enfin voilà. Et vraiment je pense que l'élément déclencheur c'est Greta Thunberg. Après moi personnellement j'ai allé chercher des infos complémentaires, j'ai créé des groupes ou rejoint des groupes pour faire des actions concrètes, sensibiliser, mais avoir ma part plus présente qu'avant.
Au début, tu as essayé de changer tes habitudes pour préserver l'environnement. Tu faisais quoi ?
Je suis devenue végétarienne. Tout ce qui est les gestes communs, comme trier ses déchets, faire attention à l'économie d'eau, d'électricité. Vraiment tous les gestes qui sont devenus pour moi banals, mais je sais qu'il y en a encore malheureusement qui ne le font pas. Acheter local, manger bio, tout ça. Et du coup, je voulais faire plus parce que c'est très bien, mais... Je voulais plus d'actions collectives, en fait, surtout. Parce que là, je me sentais un peu toute seule. Et j'ai commencé à créer mes propres savons aussi, et c'est très bien. Mais je me disais, faudrait que tout le monde le fasse, et c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que je peux faire collectivement pour que ça aille plus loin ? Et du coup, mettre dans des assos, c'était une bonne solution.
Comment tu expliques l'engouement des jeunes pour l'écologie ?
Parce qu'on a peur. Non, je pense qu'on n'est pas tous comme ça. Mais je pense qu'on est quand même une majorité à avoir peur pour notre avenir. Avoir l'impression qu'en fait, on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas vraiment de futur. Et du coup, ça nous inquiète. Et on ne peut pas rester inerte et juste contempler. Oh, il y a une catastrophe. Oh, voilà. Et puis ne rien faire. Donc, les jeunes, ils s'inquiètent pour leur avenir. Je pense qu'ils ont... une envie aussi d'agir, encore plus en cette période où on est un peu contraint, on peut rien faire, et on a envie de se rebeller, de dire en fait, nous aussi on est là. Et donc du coup, je pense que ce mouvement, il s'est construit un peu sur ces bases-là.
Cette lutte, selon toi, elle doit passer par les jeunes avant tout ?
Je pense que les jeunes, ils peuvent amener les adultes ou les plus âgés à réfléchir. Il y en a qui sont déjà bien sûr sensibilisés, et je pense que les jeunes les plus actifs, c'est aussi parce qu'ils ont reçu une éducation de leurs parents. Mais je pense que pour moi, les jeunes, c'est quand même déjà vaste, mais c'est les premiers qui se sont inquiétés, et du coup, les premiers qui ont lancé le mouvement, ce qui n'empêche pas que ça a été rejoint par plein d'autres gens, et que le mieux, c'est d'avoir un impact global sur tout ce qui est toutes les familles et tous les âges.
Quel est l'objectif de cette marche organisée le 9 mai ?
Tout est parti de la proposition de loi pour le climat qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat. Ils avaient plein de projets. Ils ont donné ça à l'Assemblée nationale. Et en fait, on voit que plus les débats avancent, déjà, il y a des lois qui ne sont même pas débattues et qui sont mises de côté. Et plus les débats avancent, plus on arrive vers la fin et moins il y a de choses acceptées, alors que la promesse du gouvernement, c'était quand même de toutes les accepter. Et donc, face à ça, nous, on s'est dit... En fait, on ne veut pas. C'est vraiment pour nous l'échec du quinquennat de Macron. C'était un texte environnemental. Il nous a promis des choses qu'il n'a pas du tout fait. Et Enfin, vraiment, on a l'impression que le gouvernement a empêché les députés de voter ou de débattre là-dessus. Et c'est quelque chose qui ne nous convient pas du tout, parce que bah, nous, on a envie que ça bouge et on a envie que ces lois, elles passent, parce que c'est un minimum pour essayer d'atteindre les 40% en moins d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'était vraiment leur pensée. Ils partaient de là pour faire leur projet de loi. Et donc, nos revendications, en fait, c'est les mêmes que la Convention citoyenne pour le climat. C'est d'être entendu par le gouvernement. C'est que face à l'urgence, il y a une réelle implication du gouvernement et de la France et de chaque citoyen aussi. Et puis, c'est tous ces projets de loi qui n'ont pas été acceptés. Nous, on veut qu'ils les mettent, en fait.
Comment vous avez organisé à Bourg-en-Bresse cette journée ?
Alors du coup, le dimanche 9 mai, ça départ à 14h sur le parking de la Tannerie, donc qui est entre lycée Quinet et Caria. On va partir du parking de la Tannerie, on va passer devant la Lande, et puis on va passer un petit peu en centre-ville. Il y a des points stratégiques qu'on voulait passer, qui avaient un sens pour nous, donc c'était la mairie et la préfecture. Donc après, on va remonter la rue en passant devant mairie-préfecture et aller au parc La Madeleine, c'est la fin. Et donc, pendant toute la marche, il va y avoir de la musique. Il va y avoir beaucoup de slogans, de cris. Enfin, nous, on veut vraiment que ce soit dans la bonne humeur. Et puis, des pauses à certains endroits, dont la mairie et la préfecture, où il y aura des prises de parole, des petits discours, en expliquant voilà, justement pourquoi on fait ça, quel est le but, ce qu'on en attend et tout.
Merci Marie-Lou. Et je rappelle que tu fais partie des organisateurs de la marche pour le climat. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Le SDIS de l'Ain se lance dans les nouvelles technologies.
Il y a l'application Bon Samaritain, lancée fin 2019, et la collaboration avec l'entreprise Corti, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Le SDIS de l'Ain innove pour accélérer la prise en charge des personnes victimes d'un arrêt cardio-respiratoire et donc sauver des vies. Un clip doit même sortir cette semaine pour promouvoir l'application Bon Samaritain. Alors direction le centre d'appel du SDIS de l'Ain, pour mieux comprendre son fonctionnement, nous avons suivi le lieutenant-colonel Cellier.
Donc ici on est sur la plateforme de réception 15-18-112. Donc c'est vraiment une plateforme commune, il y en a très peu en France, où on retrouve le SAMU et le service départemental d'incendie et de secours voilà, pour la réception des appels d'urgence. Et c'est ici qu'on utilise l'application du Bon Samaritain.
Bonjour, sergent Sarika, opérateur au CETA CODIS, de là.
Donc là, vous allez nous montrer comment fonctionne l'appli Samaritain, Bon Samaritain.
Exactement, ouais. Nous, ça se présente comme ça, en fait, l'application. Donc dès qu'on reçoit un appel pour un arrêt cardiaque, on saisit l'adresse avec la commune. On met une précision, donc s'il y a un étage, s'il y a un numéro de bâtiment, s'il y a des fois le nom ou quoi. Et après, on déclenche, et là, les gens reçoivent sur leur téléphone une notification avec toutes les infos qu'on a rentrées. Et après, soit eux, ils disent qu'ils sont disponibles et ils se rendent sur les lieux, soit ils ne sont pas disponibles et à ce moment-là, l'application va chercher d'autres personnes derrière. Voilà, donc nous, on a un retour en temps réel, on sait qui c'est qui a répondu oui. Donc on n'a pas le nom des personnes, mais on le sait. Du coup, on sait quelle personne va aller chercher le défibrillateur le plus proche, quelle personne va aller faire le massage. Il me semble qu'on a la possibilité de rappeler les personnes aussi, pour avoir des infos complémentaires. Donc voilà, donc ça c'est en plus de ce qu'on déclenche niveau pompier, en sachant qu'en parallèle le SAMU déclenche aussi un SMUR, une équipe médicale mobile. Chaque fois qu'on a un appel pour un arrêt cardio-respiratoire, donc on est plusieurs en salle, la personne qui prend l'appel va diffuser les secours, et généralement la personne qui est à côté va se connecter à l'application et puis dit engager les personnes qui sont disponibles et présentes aux alentours.
C'est dans l'attente de l'arrivée des moyens sapeurs-pompiers qui peuvent se faire entre 4 et 5 minutes à Bourg-en-Bresse, et puis peut-être avec un peu plus de temps en milieu rural. Et ben, dans ce laps de temps, c'est d'être en capacité de prodiguer les premiers secours par l'intermédiaire de secouristes qui se trouveraient à proximité. C'est le principe de l'application.
Et donc toutes ces personnes qui sont inscrites, il faut quand même leur faire confiance. Comment vous vérifiez ?
Quand vous allez vous inscrire, quand vous allez vous déclarer secouriste, eh bien, il faudra scanner ou photographier vos attestations de formation. Vous les transmettez à la société qui gère l'application, qui vérifie, qui compare par rapport à sa base. Et si c'est bon, eh bien, vous êtes déclaré comme secouriste.
Bonjour, donc le capitaine Julien Gauthier, je suis le chef de service du CTA CODIS du SDIS de l'Ain.
Vous avez assisté donc à la mise en place du Bon Samaritain. Comment ça s'est passé alors cette dernière année avec cette application ?
Donc c'est une application qui a été installée maintenant il y a quasiment un an et demi, voilà, qui est encore en cours de déploiement et d'évolution. Donc actuellement, nous avons environ 1700 Bons Samaritains sur le département de l'Ain. Et nous avons déclenché environ 300 bons samaritains depuis la mise en œuvre de cette application.
Donc ça a bien marché pour l'instant ?
Oui, parce que nous avons plusieurs situations où des bons samaritains sont arrivés avant les secours publics qui ont pu commencer un massage cardiaque avant que nos équipages arrivent.
Et donc il y a eu un clip qui a été tourné récemment pour promouvoir cette application. C'était quoi l'objectif ?
Notre objectif principal, c'est d'avoir le maximum de bons samaritains. C'est-à-dire trouver le maximum de personnes formées, voire non formées, hein, mais qui peuvent prodiguer les premiers gestes aux personnes publiques qui sont susceptibles de faire un arrêt cardiaque dans la rue ou à leur domicile.
Pour devenir bon samaritain, il faut déjà être formé au premier secours. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain. La formation grand public pourrait reprendre en juin. Elle dure une journée et coûte une 60aine d'euros. Ensuite, il suffit de télécharger l'application Bon Samaritain et de vous inscrire. Elle va être mise en avant dans les prochains jours avec le clip Staying Alive. C'est la musique qui permet de rythmer le massage cardiaque.
Mi-avril, le SDIS de l'Ain a signé un partenariat avec la société Corti pour mettre l'intelligence artificielle au service des pompiers.
L'entreprise a déjà développé au Danemark son dispositif pour mieux prendre en charge les appels liés aux ACR, les arrêts cardio-respiratoires. Cette technologie est aussi développée dans d'autres départements comme la Haute-Savoie et les Bouches-du-Rhône, mais c'est l'Ain qui sera le premier à l'utiliser. Le lieutenant-colonel Cellier nous explique.
On pense que l'intelligence artificielle peut nous faire gagner du temps dans la mise en œuvre des gestes de secourisme qui permettent de sauver des vies, le massage cardiaque notamment. Ça, c'est une première raison. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que à l'appel, il y a un certain nombre de demandes de secours qui concernent des ACR où, en gros, l'opérateur ne peut pas détecter l'ACR immédiatement. Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle qui nous amène une détection supplémentaire. On estime que sur 100 demandes de secours qui concernent un ACR, dont l'opérateur ne peut pas détecter l'ACR, eh bien 40 pourraient l'être par l'intelligence artificielle. Hein, donc c'est vraiment les deux objectifs poursuivis. Un gain de temps, et deuxièmement, c'est fiabiliser la détection de l'ACR à l'appel. Parce que derrière, ça va conditionner l'engagement de moyens adaptés à la situation. La technologie repose en fait sur un algorithme qui analyse l'appel du requérant, de celui qui transmet l'alerte. Par la recherche de mots-clés, mais aussi par la comparaison des intonations de voix, et ça par rapport à une banque de données que l'on alimente avec des situations qui se sont passées et dont on est certain du résultat. Donc c'est un phénomène de comparaison et ça permet même, dans certains cas, de proposer à l'opérateur des questions bien ciblées pour affiner le diagnostic. On gagne énormément de temps, je vous ai dit, à peu près 25 secondes de différence entre une détection humaine et une détection par l'intelligence artificielle. Et on estime que sur la globalité de l'intervention, c'est quasi, pour les plus complexes, c'est quasiment 2 minutes que l'on peut gagner. Alors c'est important parce que quand on sait que l'ACR, le cerveau est très sensible à la privation d'oxygène et au bout de 8 minutes, il y a quasiment plus de chances de survie. Donc tout le temps qui peut être gagné en amont, c'est très important, quoi.
Il faudra au moins un an avant que le système soit efficace. La base de données doit compter 1000 interventions pour arrêt cardio-respiratoire. L'un en a environ 400 par an. Ils vont aussi aller puiser dans leurs archives d'appels. Et les opérateurs seront aussi formés.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, que ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.